Bonjour, chers frères et sœurs. Comment pourrais-je dire un seul mot de ce qui nous dépasse autant ? Certes, nous avons entendu des témoignages de ce que nous avons vécu, mais comment parler de Dieu lui-même ? Qui suis-je pour vous entretenir du Dieu vivant ? Comment, ne serait-ce qu'en une phrase, déjà très incomplète, dire qui est Dieu ? C'est au-dessus de mes forces et j'ose imaginer que c'est au-dessus de vos forces aussi. Comment comprendre ce Dieu qui agit, qui souffle, qui est là, mais qui nous dépasse tellement ? Par nous-mêmes, il faut reconnaître que nous n'en saurions pas grand-chose. Et d'ailleurs, beaucoup d'êtres humains en sont là. Ils disent qu'il y a peut-être un Dieu, mais on n'en sait rien, on ne le connaît pas. Ce matin, je vais faire un peu de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle des agnostiques, des personnes qui ne connaissent pas s'il y a un Dieu ou pas. Et quelque part, l'agnosticisme est une position sage, parce qu'elle reconnaît que Dieu, s'il existe, nous dépasse. Nous allons bien sûr plus loin, à continuer à dire que Dieu nous dépasse, mais nous ne dirons pas que nous ne le connaissons pas pour autant, parce qu'il s'est révélé, il s'est fait connaître. Restons cependant modestes devant la grandeur de Dieu, devant sa splendeur, sa force, et même les mots, que sont-ils pour le décrire ? Ceci dit, et vous en avez donné de bons beaux témoignages, nous voyons l'être humain, nous voyons la beauté de l'être humain. Alors je parle surtout de vous, moi, bon, que les personnes qui se savent concernées se lèvent. Mais l'être humain est beau, c'est une créature merveilleuse, dit le psalmiste, et c'est vrai. Quand je vous vois, vous êtes beau, vous êtes et belle, vous êtes des créatures de Dieu. Dieu est un grand Dieu parce qu'il a fait une très belle création. Quand je vois les animaux, j'avais pour ambition, mais la technique et moi, j'ai renoncé très vite. Vous savez, il y a parfois des films à la télévision qui montrent des animaux dont j'ignorais jusqu'à l'existence, qui se déplacent de manière très bizarre, surtout dans les fonds, dans les hauts, dans les grands fonds. Et le Créateur est une imagination phénoménale. La nature, la beauté de toutes sortes de choses. J'aurais pu vous montrer des tas de photos, bien sûr, vous en connaissez vous-même. Alors d'un côté, Dieu, on ne peut pas le connaître, et de l'autre, sous les yeux, on a des choses magnifiques qu'il a faites. Alors on se dit, ah, quand même, tout ça, toute cette beauté, cette grandeur, est-elle venue toute seule ? Et alors on élabore, l'homme, l'être humain élabore toutes sortes de systèmes de pensée. De nouveau un petit peu de vocabulaire. Vous savez ce que c'est que le polythéisme ? Quand il y a plusieurs dieux et que l'on croit qu'il y a un ensemble de dieux. Et alors il y a toutes sortes de récits, de drames dans le monde d'au-dessus qui nous raconte que finalement un tel a eu un enfant avec un autre telle divinité et puis finalement ça a donné le monde. Il y a l'athéisme. L'athéisme, c'est quand on affirme qu'il n'y a aucun Dieu. Ce n'est pas l'agnosticisme qui dit « je ne sais pas », c'est d'affirmer qu'il n'y en a pas. C'est une position qu'un certain nombre de nos contemporains ont. Alors, il y a l'énothéisme. Alors ça m'a valu, cette position-là m'a valu du sueur froide. Je me souviens qu'à la faculté de théologie, lors d'un oral à la fin de l'année, le professeur de dogmatique me demande « qu'est-ce que l'énothéisme ?» Et moi, je ne savais pas. Depuis, je sais, je vous assure. C'est le fait qu'on sait qu'il y a plusieurs dieux, mais on en choisit un pour l'adorer. Il y a le théisme. C'est le fait qu'il y a un Dieu, qu'il y a Dieu tout court, et qu'il agit, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Il y a le déisme, le fait qu'il y a un Dieu dont on ne pense pas grand-chose, qui ne fait pas grand-chose. Il y a des conceptions de l'univers très complexes, même au temps du Nouveau Testament, il existait des conceptions du monde qui avaient plusieurs étages, qui avaient des dieux et des sous-dieux qui s'y avaient finalement créé le monde presque comme une, et ce monde était une chose mauvaise alors que Dieu était dans un univers tellement bon. J'arrête. Pitié, Jean-Marc, s'il te plaît. Face à tout cela, la Bible nous donne quelque chose de terriblement simple. Genèse 1:1, donc la première phrase de la Bible, hein, pour les ignorants qui ne savent pas que la Genèse est le début, et qui ne savent pas que le 1, c'est aussi le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, tout est dit en une phrase. Pas de récit cosmique, pas de dieu, de demi-dieu, de sous-dieu. Non, juste Dieu. Pas de drame créationnel, de héros céleste, de mythologie complexe, mais Dieu. Ceci dit, en hébreu, langue de la Genèse, ce mot donne déjà le ton. Ce n'est pas un nom propre. Celui-ci ne viendra que plus tard dans le récit. Que veut-il dire? Idée de force, peut-être. J'ai relu un ou deux lexiques à ce sujet. Idée de puissance. C'est un mot complexe, dont le pluriel exprime, parce que c'est un mot pluriel, qui exprime quelque chose d'intensif, de complet, beaucoup plus, à mon avis, qu'une allusion à la Trinité, c'est le mot Elohim. C'est Dieu. C'est ce quelqu'un qui a créé ce que j'admire. Ce quelqu'un qui a créé ce que je suis. Ce que nous sommes ensemble, nous les êtres humains. En commençant le livre de la Genèse par cette petite phrase, la Bible nous propose d'entrer une compréhension générale des choses que nous avons sous les yeux. D'entrée, elle nous dit, le lieu où tu vis, c'est Dieu qui l'a créé. C'est la création de Dieu. Je ne vais pas mieux comprendre la création dans laquelle je suis, qui me pose une foule de questions, mais je vais savoir une chose fondamentale, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a faite. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, et heureusement pour nous, en tout cas pour moi, de tout comprendre. Pour avoir cette parole de confiance, c'est Dieu qui a créé le monde dans lequel je suis, qui a créé l'être humain que j'ai en face de moi. Même s'il est passionnant d'essayer de comprendre, et je salue tous les efforts des scientifiques et autres historiens et autres chercheurs, pour comprendre ce monde dans lequel nous vivons. Ceci dit, il y a devant cette petite phrase du livre de la Genèse une simple décision de foi. Si la Genèse me dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », est-ce que je vais dire « Oui, c'est vrai » ou est-ce que je vais dire « Non, ce n'est pas vrai ». C'est une décision de foi que nous prenons face à cette petite phrase. Est-ce que je fais confiance à cette Bible qui me dit au commencement, Dieu a créé tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce qui est autour de toi. Est-ce que cette conception du monde, je vais l'accepter comme vraie, je vais la faire mienne ou pas? La Bible, à cet endroit, je vous le rappelle, ne décrit pas Dieu. Elle ne raconte pas son histoire, sa vie, son œuvre, comme on raconte parfois sur des hommes ou des femmes célèbres. Elle ne donne pas de preuves non plus. Elle ne cherche d'ailleurs pas à le faire. Elle affirme, tout simplement, au commencement, Dieu. Nous comprenons ainsi que Dieu conserve sa part de mystère, d'incompréhensible. On appelle ça la transcendance. C'est-à-dire que Dieu est trop haut pour que notre pensée puisse l'atteindre. Le comprendre. Il faut que lui se révèle, lui vienne vers nous pour que nous puissions le comprendre. Mais si Dieu garde sa part de mystère, ne pouvons-nous pas lui faire confiance quand même ? Mon épouse garde une grande part de mystère pour moi, même au bout de 32 ans de vie commune. Et pourtant, je lui fais confiance. À combien plus forte raison pourrons-nous faire confiance au Dieu suprême qui reste pour moi totalement au-dessus de nous ? Prenez l'exemple d'Abraham. Abraham, vous savez, il est appelé le père des croyants, c'est-à-dire celui qui a en quelque sorte initié la foi. Je vais me promener un petit peu dans l'Épître aux Hébreux. Vous l'avez d'ailleurs dans les quad neuf. Au chapitre 11, au verset 3, vous avez la phrase sous les yeux, je la relis. « Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. » Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Cette lecture du monde, l'auteur de l'Épître aux Hébreux la reprend, ne fait que s'approprier ce Genèse 1:1. Au commencement, Dieu a créé. Pourquoi je lis cela ? Ben, poursuivons, puisqu'après, il y a toute une série d'hommes et de femmes qui ont vécu, traduit leur foi en pratique. Verset 8, c'est Abraham. Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Il est parti sans savoir où il allait. Alors le livre de la Genèse, effectivement, raconte cet appel qu'Abraham a reçu de Dieu et ce départ qu'il a fait pour l'inconnu. Abraham, verset 9, là je reviens à l'Épître aux Hébreux, a cru en Dieu. Alors il est allé habiter comme un étranger, pardon, dans le pays promis par Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse dire, en lisant les textes, les récits de la Genèse, qu'Abraham avait tout compris de Dieu. Mais regardez ce qui est écrit, c'est ça l'essentiel. Le début du petit bout de récit de la lettre aux Hébreux, c'est pas Abraham a fait 3 ans de théologie, il a médité longuement sur ce qu'est Dieu, il a enfin compris qui était Dieu à 100%, et là, il a cru. Non, ça commence par il a cru, tout simplement. Et je reviens à cette décision qu'il nous faut prendre. Est-ce que j'ajoute foi à ce qui m'est dit ici ou pas ? C'est ça la question. Genèse 12, en effet, le récit dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en. Et trois versets plus loin, Genèse 12, 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Nous sommes tous des Abraham. À nous aussi, Dieu dit, va-t'en. Alors, non pas va-t'en au sens part, mais... Fais quelque chose, agis dans ce monde. Écoutons cette parole qui vient de Dieu, cette Bible qui a commencé si simplement, de manière si contrastée avec les récits mythologiques. Écoutons cette Bible qui nous affirme la présence de Dieu. La Bible commence par « au commencement », mais elle poursuit. Et elle parle d'aujourd'hui. Elle écrit aussi aujourd'hui. Alors, c'est un peu facile peut-être, mais je vous cite un autre texte de la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si c'est pas votre cœur. Ouvrons notre foi, non seulement à la première phrase de la Bible, mais à toutes celles qui suivent. Si la Bible a commencé de manière si simple et, de mon point de vue, si pertinente, elle me donne envie de continuer de l'écouter, de la lire jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière page. Ouvrons notre foi, non seulement à la première phrase, mais à toutes les autres, pour aujourd'hui. Et notamment, soulignons, et cela a été dit tout à l'heure, dans la présidence du culte, par les chants, par les paroles qui ont été dites, Dieu s'est fait connaître à nous par Jésus-Christ. Nul n'a vu le Père, explique Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus est l'envoyé de Dieu et Dieu lui-même qui vient parmi nous pour nous faire connaître Dieu. Je vous disais tout à l'heure que si Dieu était resté dans la grandeur de son isolement, de sa solitude, de sa sainteté, et n'avait pas décidé de se révéler à nous, que ferions-nous? Comment ferions-nous? Nous croyons en un Dieu qui se révèle. Nous croyons en un Dieu qui se fait connaître. Nous croyons en un Dieu qui demande une relation avec lui. Écoutons cette parole pour hier, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. D'autres avant moi ont remarqué que la Bible commence dans un jardin et termine dans une ville. Le jardin d'Éden et la cité céleste pour finir. Mais le commencement et la fin, s'ils sont différents, ont un point commun, c'est que les deux sont en la présence de Dieu. Ça, c'est le demain. Là encore, n'attendez pas de moi qu'à la sortie du culte, je vous explique les dates, les lieux, qui va comment faire quoi. C'est un univers, l'avenir, qui est plein de questions. Mais il y a une certitude. Dieu restera Dieu dans l'avenir comme il l'a été dans le passé. Et s'il promet quelque chose, il tiendra sa promesse. Si j'accepte de lire avec foi au commencement Dieu a créé, alors je proclame avec foi et Dieu va continuer jusqu'à la fin. Pour la suite, parce que la notion de fin encore peut nous poser question. Soyons donc des croyants heureux. La Bible nous explique quelle relation avoir avec ce Dieu si loin de nous et pourtant si proche. La Bible nous explique, chers frères et sœurs, et il ne s'agit pas de prétexter la suprématie de Dieu, sa transcendance, sa grandeur, sa puissance, pour se livrer à des jeux de pouvoir, par exemple. Rappelons-nous que la position qui sied à l'humain, à l'être humain devant Dieu, c'est l'humilité. Et ne prétextons pas la puissance de Dieu pour la... N'utilisons pas ou prétendons pas utiliser la puissance de Dieu pour la mettre au service de notre gloriole. Ou ne prétextons pas la puissance de Dieu pour nous laisser aller à la violence, en nous prétendant au service de ce Dieu puissant, qui, à vrai dire, n'a nul besoin de nous s'il veut agir. Ce que je vois aussi dans la Bible que j'ai sous les yeux, que nous avons ensemble, en commun, c'est qu'au début, le premier verset appelle Dieu, Dieu, le puissant, celui qui est au-dessus. Mais que nous enseigne Jésus? Il nous enseigne à l'appeler Père, notre Père. C'est la prière du Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples et à nous tous. Nous appelons Dieu notre Père. Il y a dans cette expression tout un chemin entre le Dieu créateur et celui avec lequel nous avons une relation filiale. Grâce soit rendue à Dieu qui nous permet d'avoir cette relation filiale avec lui. C'est une relation, là encore, qui peut susciter bien des questions, mais vivons-la. Écoutons les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure, gardons-les dans nos cœurs et nous comprendrons ce que Dieu veut. Le Dieu créateur du ciel et de la terre veut aussi que nous soyons ses fils et ses filles dans la foi en Jésus-Christ. Tout simplement, n'oublions pas, ne laissons pas Dieu tout seul dans cet isolement. Il y a dans mon bureau, et j'ai oublié de l'amener, un simple mot, c'est justement le mot « Dieu ». Ceux qui y viennent le verront. Ce simple mot est là. Il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de long discours, il y a juste ce mot, Dieu. Et cela témoigne de ce qui doit, je pense, être dans ma vie, propose dans la vôtre, avoir cette conscience que Dieu est là. Que Dieu n'était pas là qu'au commencement, il est toujours là et qu'il sera toujours là. Avoir conscience, c'est parfois être rappelé à l'ordre, c'est parfois être encouragé, c'est parfois, et cela a été dit, être remis debout, c'est parfois devoir se mettre à genoux. Gardons cette idée de Dieu, cette idée de la présence de Dieu dans chacune de nos vies, toute cette semaine et les jours qui viennent. Prions. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre de manière très simple que le lieu où nous vivons est ta création. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, nous parvenions à nous positionner dans la liberté devant cette phrase « Dieu a créé les cieux et la terre ». Je te prie pour les personnes qui n'en sont pas convaincues, qui sont en chemin, en réflexion, qui ont des questions. À vrai dire, nous avons tous des questions. Je te prie, Seigneur, pour d'autres qui ont cette certitude, qui ont accepté cette phrase comme vraie, pour que cela ait des conséquences heureuses dans leur vie, dans nos vies. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les personnes qui sont en colère. Cette colère qui a été citée tout à l'heure, d'un Dieu créateur avec lequel on a envie de se disputer parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Que chacun dans son âme et conscience, Seigneur, se positionne devant cette phrase « Dieu a créé. Dieu m'a créé. » Béni sois-tu, Seigneur. Béni chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, tu appelles de nous une relation filiale en Jésus-Christ. Je prie de bénir chaque personne pour qu'elle continue, qu'elle trouve cette relation filiale en Jésus-Christ. Amen.